الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحيث بلغ نشاط المعتزلة والجهمية ذروته بتبني الدولة العباسية في عصر كل من المأمون والمعتصم والواثق لآرائهم وعقائدهم، لذلك حظيت هذه الفرق بالنصيب الأكبر من هذه الردود. يجي كما ستبوك ceux qui étaient très présents et très actifs, c'était Al-Mu'tazila et Al-Jahmiya, et notamment parce qu'ils étaient aidés par Ad-Dawla Al-Abbasiyya, c'est-à-dire par l'État et par la dynastie des Abbasides à partir de Al-Ma'mun, un des califes qui s'appelait Al-Ma'mun, et par son frère qui lui a succédé qui était Al-Mu'tasim, et le troisième frère qui a succédé qui était Al-Wathiq. Ces trois-là, ils partageaient le madhab et les opinions de Al-Mu'tazila. Ou s'ils ne les partageaient pas, comme par exemple pour dire Al-Mu'tasim, lui il n'était pas quelqu'un d'une grande compréhension, simplement il le défendait par respect pour son frère, c'est tout. En tout cas, il défendait Al-Mu'tazila. Et c'est pour ça que les ulama, et c'est pour ça que la plupart des répliques qui ont été écrites, elles ont été écrites justement contre eux, contre Al-Mu'tazila et Al-Jahmiya. Donc Al-Mu'tazila, je rappelle, c'est des gens qui mécroient, ils croient au nom d'Allah, mais qui ils disent que ce sont des noms sans signification. Allah n'a pas d'attributs, ni d'ouïe, ni de vue, ni de science, ni quoi que ce soit. Et aussi, ils ont d'autres innovations en ce qui concerne la foi. En ce qui concerne, ils disent Al-Manzila Bain Al-Manzilatayn, celui qui commet un grand péché, il est ni croyant ni mécréant. Et au jour du jugement, il sera jugé, il rentrera en enfer éternellement. Ça fait partie de leurs innovations. Et d'autres choses encore. Et Al-Jahmiya, c'est ceux qui renient, même les noms d'Allah, ils les renient. Et donc ce sont les ancêtres de ceux que vous avez maintenant sur Paltok et les sites internet, qui s'amusent à nous dire qu'Allah il n'est pas au-dessus des sept cieux, mais qu'il est partout, ou qu'en fait il n'est pas partout, mais il est nulle part, c'est-à-dire il est ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni en dessous, ni au-dessus. Bah leur ancêtre c'est eux, c'est Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Et c'est contre eux qu'ont répliqué les salafs. Il dit « Wa min dhalika ar-raddu 'ala al-Jahmiyyati li Ahmad ibn Hanbal » Parmi ces répliques, la réplique contre Al-Jahmiya de Ahmad ibn Hanbal. والدارمي أيضا ويوسي الرد على الجهمية دو عثمان بن سعيد الدارمي والرد على بشر المريس المعتزلي دو toujours دو عثمان بن سعيد الدارمي. Mais en fait, moi, à ma connaissance, le livre il s'appelle pas comme ça, il s'appelle الرد نقد عثمان بن سعيد, la réplique de عثمان بن سعيد على بشر المريس الجهمي العنيد, contre بشر المريس, le جهمي orgueilleux, ou le جهمي عنيد, c'est-à-dire qui renie, qui s'enorgueillit, etc. وَخَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ لِلْبُخَارِ وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ. Et le livre خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ, c'est-à-dire le fait que les actes des êtres humains sont créés, de l'imam al-Bukhari, où il réplique notamment à al-Qadariyya. وَكَمَا كَانَ لِأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي جُهُودٌ رَائِدَةٌ وَعَظِيمَةٌ فِي خِدْمَةِ السُّنَّةِ تَدْوِينًا وَذَبَّ الْكَذِبِ عَنْهَا وَحِمَايَتِهَا مِنْ كُلِّ مَا يَشُوبُهَا جَرْحًا وَتَعْدِيلًا. كذلك كان لهذا الجيل في القرن الثالث جهود جبارة وكبيرة في سبيل خدمة السنة وقمع ما يخالفها من الأهواء والبدع. Comme la génération d'avant, on fournit des grands efforts pour servir la sunna et en écarter tout ce qui n'en fait pas partie, et pour protéger la sunna, et notamment avec al-jahh ou al-ta'dil, cette génération ont commis aussi et ont prodigué aussi des efforts énormes. ولقد توجت تلك الجهود في خدمة السنة بتلك المؤلفات المختلفة من كتب المتون مسانيد والصحاح وسنن وكتب الرجال المتنوعة في موضوعاتها ومجالاتها إلى كتب العقيدة التي كثرت في هذا القرن. Donc notamment leurs efforts et cette réplique contre les gens d'innovation et de la passion s'est faite avec les écrits dans le hadith comme al-masanid, le pluriel de musnad, ou alors les sihah, c'est-à-dire le sahih de un tel, ou alors as-sunan, et aussi les livres sur la science des hommes qui avaient différentes formes, et les livres aussi de aqida. كما توجت تلك الجهود ايضا في مجال قمع الاهواء والبدع ومحاربه اصحابها وكشف اسرارهم وتحذير الامه من شرهم بتلك الوقفه الشامخه من امام اهل السنه الصديق الثاني ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في وجوه اهل التجهم والاعتزال الذين جمعوا عليه وألبوا فخرج رحمه الله منتصرا مؤيدا من الله عز وجل وقمعت بإذن الله البدعة ونقص أصحابها على أعقابهم مدحورين. Il dit, et ces efforts aussi, ils ont été pour détruire les passions et détruire les gens d'innovation, et pour les dénoncer et pour mettre en garde pour mettre en garde la communauté contre eux, elle a été menée par, et elle est représentée aussi par cette position qu'a eu le deuxième Siddiq. Donc le premier c'est Abu Bakr, et le deuxième c'est Ahmed ibn Hanbal, l'imam de Ahl Sunnah wa Jama'a, qui s'est dressé contre Al-Mu'tazila. Donc l'imam Ahmed ibn Hanbal à son époque, Al-Ma'mun a pris le pouvoir. Et Al-Ma'mun, il supportait l'idée des Al-Mu'tazila, parce qu'il avait fait Baytul Hikmah, la maison de la sagesse, et en fait c'est le Jahl plutôt que le Hikmah, et avec des intellectuels, etc., qui s'inspiraient de la philosophie, et des Mu'tazila. Et donc Al-Ma'mun, qui croyait à la croyance de Mu'tazila, a défendu cette croyance avec les armes. Et lui, il était le calife, donc celui qui ne voulait pas obéir, il le punissait. Donc il a forcé les ulama, au moins de la région de l'Irak, à dire que le Coran était créé. Alors que le Coran, il n'est pas créé. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, ce n'est pas une création. C'est sa parole, tout simplement. Et donc la plupart des gens, ils se sont soumis, parce qu'ils avaient peur d'être torturés ou d'être mis en prison. Sauf l'imam Ahmed, et aussi un imam qui s'appelait Mohamed ibn Nuh. Et Mohamed ibn Nuh, lui, il est mort. Et Ahmed ibn Hanbal, il a résisté. Al-Ma'mun est mort, a pris la succession son frère Al-Mu'tasim, qui a continué à châtier l'imam Ahmed, et à le fouetter et à l'emprisonner. L'imam Ahmed a toujours tenu. Ensuite a pris la succession Al-Wathiq, qui a continué la pression contre l'imam Ahmed et qui l'a exilé. Et l'imam Ahmed a toujours tenu, jusqu'à ce que le quatrième frère prenne la succession, et lui, il était de Ahl Sunnah, et il a rétabli l'imam Ahmed. Et il a enlevé tous les Mu'tazila de leur place de juge ou de leur place administrative, et il a rétabli la paix pour Ahl Sunnah wa Jama'a. Donc il dit, il s'est dressé contre eux, et il a été secouru par Allah à tel point que l'innovation a été détruite, et que les gens de l'innovation se sont retournés déçus et désolés. وقد تميز التدوين في هذا القرن بما يلي. Donc la distinction de l'écriture dans cette génération par rapport à celle d'avant, c'est تجريد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزها عن غيرها بعد أن كانت قد دونت في القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. Il dit, la distinction c'est que les écrits de cette époque-là, ils citent seulement pour la plupart les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم. Alors qu'auparavant c'était les paroles du prophète accompagnées de celles des compagnons. Et cette génération-là, ils écrivent surtout la parole du prophète seul. Même si tu peux avoir quelques exemples où quelquefois tu vois l'imam Bukhari ou Abu Daoud, il cite une parole d'un compagnon, mais c'est rare. Et c'est pour ça que même jusqu'à maintenant, pour retourner aux paroles des sahaba, on est obligé de retourner au livre de la génération d'avant, comme Al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba, Al-Musannaf d'Abd al-Razzaq et aussi le Muwatta. الاعتناء ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. Aussi, ils montraient dans leur livre, après avoir cité le hadith, il y a ce qui est apparu de nouveau, c'est le fait de parler sur le hadith quant à son authenticité. Et ça, vous trouvez dans les sunan d'Abi Daoud. Abu Daoud, il juge le hadith, il le rapporte et après il le juge. Et aussi al-Tirmidhi. تنوع المصنفات في تدوين السنة حيث ظهرت الأنواع التالية. Aussi, la diversité et la diversification des livres qui compilent la sunna à cette époque. Et il dit, il y a plusieurs sortes qui sont apparues. Donc il dit, Kutub al-Masanid, allati tu'na bijam'i ahaditha kulli sahabin ala hiddatin kamusnad al-imam Ahmed wa ghayri. Il dit, al-Masanid. Masanid, c'est le pluriel de musnad. Donc qui sont, le musnad, c'est un livre. Donc tout musnad est un livre, en général, qui regroupe les hadiths, mais classés par compagnons. Donc par exemple, il va commencer les hadiths rapportés par Abu Bakr, et il te met tous les hadiths qui viennent d'Abu Bakr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans les ablutions, la aqidah, tout mélangé, après Omar, après Uthman, et ainsi de suite. Et le plus connu, c'est le musnad de l'imam Ahmed. Kutub al-sihah wa sunan allati tu'na bi tasnif ahadithi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala al-kutub wal-abwab مع العناية ببيان الصحيح من غيره كالكتب الستة وغيرها. Après الصحيح, le pluriel de صحيح, ou alors السنن, qui regroupe les hadiths du prophète avec des chapitres, et qui montre aussi et qui parle sur l'authenticité du hadith, comme les six livres principaux, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i et Sunan ibn Majah. Et on peut rajouter un septième qui est Sunan al-Darimi. Kutub mukhtalaf al-Hadith wa mushkalihi, مثل كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي وكتاب اختلاف الحديث لعلي بن المديني وكذلك كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وغيرها. Après les hadiths, les livres sur les qui parlent pas, qui compilent pas les hadiths mais qui parlent du hadith, donc ça peut être sur les mots du hadith ou alors sur les divergences entre les différents rapporteurs et les différentes citations et les différents rapports qui ont été faits du hadith. وهناك الكثير من المصنفات في هذا القرن نكتفي بذكر القليل منها إشارة إلى الكثير. Et dit, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans cette génération et nous on va citer le principal. Donc il dit كتب المسانيد, les مسانيد. تعريفها المسند لغة ما ارتفع على الأرض وعلى عن السطح. المسند dans la langue arabe c'est ce qui est élevé. وفي الاصطلاح أطلقه المحدثون على معنيين. Et dans la religion, ou dans le lexique des gens du hadith, le musnad, ça s'applique, le mot musnad s'applique à deux choses. Al-awwal, al-hadith ou al-musnad. Donc là, je vais résumer ce qui est écrit ici. Donc la première façon d'utiliser le mot musnad, c'est pour qualifier un hadith. On dit un hadith musnad. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un hadith dont la chaîne de transmission est complète, il n'y a pas de trou dedans. C'est ça un musnad. C'est pour ça, par exemple, l'imam al-Bukhari, il a appelé son livre Al-Jami'u Sahih al-Musnad. Parce que dedans, il y a les chaînes de transmission complètes jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième façon d'utiliser le mot Musnad, c'est pour désigner un livre qu'on appelle un Musnad. Donc, un livre qu'on appelle un Musnad, c'est un livre qui est classé, non pas par chapitre, mais par compagnon. Donc, si tu veux connaître les hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira, ou alors toi, tu as trouvé un hadith, et tu veux le trouver dans un livre, et tu vois, il est rapporté, le sahabi, c'est Abu Huraira. Ben, tu vas dans le Musnad, tu prends Abu Huraira et tu cherches ton hadith. Après, il cite ici que le Masanid, il y a trois façons de les classer. Donc, il y en a qui mettent par ordre alphabétique. Donc, ils mettent les compagnons par ordre alphabétique. Par exemple, ils commencent par Ubay ibn Ka'b. Il y en a d'autres qui font par tribu. Donc ils mettent la tribu la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons qui étaient le plus proches du prophète, ils commencent leur hadith, et ainsi de suite. Et d'autres ils commencent par le mérite des compagnons, c'est-à-dire les plus anciens dans l'islam. Et ils commencent par exemple par les 10 compagnons qui sont promis au paradis, puis ceux qui ont fait la bataille de Badr, puis ceux qui ont fait la bataille de Uhud, etc. etc. Et le Khatib al-Baghdadi il dit c'est la meilleure façon de faire. Après il cite ici Ahammu Kutubil Masanid, donc les plus importants Musnad. Donc vous allez voir qu'il y en a beaucoup en vérité. Premièrement Musnad Abi Daoud Sulaiman ibn Daoud At-Tayalisi. Donc le Musnad Abu Daoud At-Tayalisi, qui n'est pas Abu Daoud qui a écrit les Sunan, qui est mort en 204. Donc ils disent ici وقد رتب هذا المسند على أبواب الفقه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي رحمه الله وسماه منحة المعبود بترتيب مسند أبي داود وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. Il dit ce musnad, il y a le cheikh Abu Ahmed ibn al-Banna al-Sa'ati, qui est un égyptien, rahimahullah, qui l'a arrangé par chapitre. C'est-à-dire, le livre à la base, il est par compagnon. Lui, il l'a pris, il a repris tous les hadiths et il les a mis par chapitre. Donc, les ablutions, la salat, etc. Et il existe en deux tomes, en deux volumes. Musnad Abi Bakr ibn Abi Shayba, al-Mutawaffa sana 35 ou 200. Donc, le Musnad de Ibn Abi Shayba, qui n'est pas son Musannaf. Donc, il a deux livres, Ibn Abi Shayba, al-Musnad et al-Musannaf. Et il est mort, Ibn Abi Shayba, en 235. Donc, ils disent ici, il existe deux manuscrits de ce Musnad. Une qui est dans la Mektaba Ahmed al-Thalith en Turquie, et l'autre qui est dans la bibliothèque al-Maktaba al-Wataniya, yani la bibliothèque nationale de Tunisie. Et on trouve les photocopies de ces manuscrits à l'université islamique de Médine. Donc il n'est pas édité en livre. Mousnad Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbari. Al-Mutawaffa Sana, Thaman wa Thalathin wa Mi'atayn. Le Mousnad de Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbari. C'est-à-dire Ishaq ibn Rahaway, qu'on citait tout à l'heure, qui est le on avait dit, il est le compagnon de l'imam Ahmed. Il a un Mousnad. Cet imam qui est mort en 238. Donc là, ici, il dit ici qu'il y a un docteur qui a authentifié une partie de ce Mousnad. Quand on dit authentifié, ça veut dire qu'il a retrouvé les manuscrits et il les a comparés, il les a édités. Ou il l'a ressorti en livre et il a ressorti le Mousnad de Aïcha, c'est-à-dire la partie qui comporte les hadiths de Aïcha de ce Mousnad. Et sinon, la plupart de ce Mousnad, il est perdu, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'on n'en a plus de traces. Rabi'an Mousnad al-Imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Donc, bien sûr, le Mousnad de l'Imam Ahmed, qui est mort en 241, rahimahullah. Wa huwa akbar al-masanid al-mawjoudati fi ma a'lam. Et bien sûr, celui-là, il est édité, et c'est le plus grand Mousnad qui existe. Mousnad Ahmed ibn Ibrahim al-Dawraqi. Al-Mutawafa sana 46 wa 200. Donc, le Mousnad de Ahmed Ibrahim al-Dawraqi, qui est mort en 246. Il s'en trouve un morceau de la partie de. Du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas à Maktabat al-Zahiriya en Syrie. Al-Muntakhab min Musnad Abd ibn Humayd al-Kashi, al-Mutawaffa sana 49 wa 200. Ils disent après le Musnad de Abd ibn Humayd, qui est mort en 249, et il a été édité en 3 volumes et authentifié par Mustafa al-Adawi. Musnad Ya'qub ibn Shayba Abu Yusuf al-Sadusi, al-Basri, al-Mutawaffa sana 62 wa 200. Le Mousnad de Ya'qub ibn Shayba, qui est mort en 262. Il dit, il dit, il y a une partie qui est le Mousnad de Omar ibn al-Khattab qui a été édité de ce Mousnad. Donc là, vous pensez, vous vous dites, tout ce qui a été perdu, où est-ce qu'il est? Ça veut dire, on a perdu des hadiths, on les a pas perdus. On va voir pourquoi après. Tout ce qui a été perdu, il n'est pas vraiment perdu. Mousnad Ahmed ibn Ibrahim al-Tarsusi al-Khuzai, qui est mort en 273, et il dit il y a une petite partie qui existe et qui est éditée. Mousnad ibn Abi Gharaza Ahmed ibn Hazim al-Ghafari al-Kufi, qui est mort en 257, et on en trouve une partie à Maktab al-Zahiriya en Syrie, à Damas. Mousnad de al-Harith ibn Muhammad ibn Abi Usam al-Tamim al-Baghdadi, qui est mort en 282 et qui est perdu. Le Mousnad de Ahmed ibn Amr ibn Abd al-Khaliq al-Bazzar, celui-là il est connu, Mousnad al-Bazzar, qui est mort al-Bazzar en 292. Et celui-là il existe et il est édité. Mais il en manque une petite partie du début. Mousnad Abu Ya'la, Ahmed ibn Ali ibn al-Muthanna al-Tamim al-Mousili. Donc Abu Ya'la qui est mort en 307. Celui-là aussi son Mousnad il est édité. Mousnad Abi Sa'id al-Haytham ibn Kulayb al-Shashi, qui est mort en 335, et une partie a été éditée. Le Mousnad, donc après, ensuite il en cite des autres, qui sont moins connus. Ensuite il dit Tanbih. Donc le Tanbih ici, je vous le résume, il dit il y a certains livres qui s'appellent Mousnad, et qui ne sont pas, ou plutôt il y a des livres qui sont Mousnad, qui rentrent dans la définition d'un Mousnad et que leur auteur ne l'a pas appelé Mousnad, notamment Al-Mu'jam de At-Tabarani, qui est un livre très important dans le hadith, et Al-Hilal de Ad-Darqutni. Et des fois, il y a des livres qui s'appellent Mousnad et qui ne sont pas des Mousnad dans le sens où on vient de le dire. Ensuite, il dit ici, donc comme on a fait pour le Muwatta, il y a un point de vue global sur le Mousnad de l'imam Ahmed. Donc premièrement, qui est l'imam Ahmed? Il dit « Cheikh al-Islam wa Sayyid al-Muslimin fi asrihi, al-Hafidh al-Hujjah wa al-Imam al-Qudwa, al-Mujma'a ala jalalati qadrihi wa ulu sha'nihi min al-Muwafiqi wal-Mukhalif, Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad al-Zuhali al-Shaybani, al-Mawlud sana 64 wa 100, wal-Mutawafa sana 41 wa 200. » Donc l'imam Ahmed qui est mort, qui est né en 164 et mort en 241. Donc, Kitab al-Musnad, Tariqatu Tartibihi. Donc, en fait, comment il a classé le Musnad? Il a commencé par les 10 compagnons qui sont promis au paradis. Donc, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Zayd, après, finissez, Abu Ubaida, et Abdurrahman ibn Auf, barakallahu fikum. Deuxièmement, après il a mis Abdurrahman ibn Abi Bakr, wa Zayd ibn Kharija, wa al-Harith ibn Khazama, wa Sa'd ibn Mawla Abi Bakr. Après il a mis le Musnad de Ahlul Bayt, donc les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le Musnad de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths, comme Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Abu Huraira. Après les gens de la Mecque, après les gens de Médine, après les gens du Shem, après les gens de Koufa, après les gens de Basra, après Al-Ansar, les gens de Médine, après le Musnad de Aïcha et des femmes, c'est-à-dire les femmes qui ont rapporté des hadiths, et après le Musnad du reste des Sahaba qui sont des tribus. مكانه هذا المسند قال حنبل جمعنا احمد بن حنبل انا وصالح وعبد الله وقرا علينا المسند وما سمعه غيرنا وقال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من اكثر من 700,000 حديث و50,000 وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان وجدتموه والا فليس بحجه حنبل. Donc, qui était le cousin et l'élève de l'imam Ahmed, a dit: l'imam Ahmed m'a réuni, moi et Salih et Abdullah, qui sont les deux enfants de l'imam Ahmed. Et il nous a récité le Musnad complet. Donc, il dit: il n'y a personne d'autre que nous qui l'a entendu. Peut-être qu'il vise ici à ce moment-là. Et l'imam Ahmed, il leur a dit: ce livre, j'ai réuni ces hadiths et je les ai choisis à partir de plus de 750 000 hadiths. Il dit: ce sur quoi les musulmans divergent dans les hadiths du prophète, alors retournez à ce livre. Et si vous le trouvez dedans, sinon, ça n'est pas une preuve. C'est-à-dire, il veut dire, tout hadith sur lequel on diverge, si vous ne le trouvez pas dans mon musnad, c'est que ce n'est pas un hadith valable. Donc ici, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ici, c'est une parole de l'imam Zahabi, comme quoi, en fait, cette parole, elle n'est pas absolue de l'imam Ahmed. Il y a des hadiths qui ne sont pas dans le musnad de l'imam Ahmed, qu'on retrouve dans les sunan, et qui sont pourtant, ils sont bel et bien authentiques. Après il dit: وقال أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا. Ici un des savants disait: ce livre est une grande base et une grande référence pour les gens du hadith, qui a été choisi à partir de beaucoup de hadiths. Et donc c'est un imam, c'est-à-dire ce livre est un guide, un mu'tamad, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on fait référence et on s'y repose. Et lors de la divergence, c'est quelque chose auquel on retourne. A'adadu ahadith il-musnad. Donc là, il parle du nombre des hadiths du musnad. Il dit: qala al-hafidhu Abu Musa al-Madini. فأما عدد أحاديثه فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها 40,000 إلى أن قرأت علي بن على أبي منصور ابن رزيق القزاز ببغداد قال حدثنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا ابن المنادي قال لم يكن أحد في الدنيا أروى عن أبيه منه يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل لأنه سمع المسند وهو 30,000 والتفسير وهو 120,000 فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مقرر فيه أو أراد غيره مع المقرر فيصلح القولين جميعا ويذكر أبو موسى أيضا عن عبد الله بن الحسين عن عبد الله عن أبي عبد الله الحسين ابن أحمد الأسدي في كتابه مناقب الإمام أحمد أنه سمع أبو بكر بن مالك يذكر أن جملة ما وعاه المسند 40,000 hadith, غيره 30 ou 40 hadith. Bon, là c'est beaucoup de paroles. Le résultat c'est que le Musnad de l'imam Ahmed, il est d'à peu près 40 000 hadith, un peu moins de 40 000 hadith. Quelqu'un il pourrait me demander bah, où ils sont passés les. Si l'imam Ahmed il a choisi le hadith à partir de 750 000 hadith et qu'il y en a 40 000, où ils sont les 710 000? En fait, il faut comprendre, c'est que quand ils disent des nombres comme ça, ils citent un hadith, ils comptent un hadith, c'est une chaîne de transmission. Ça veut dire s'il a entendu d'un shir ce hadith, et il entend d'un autre shir, il le compte deux hadiths, même si c'est le même hadith. Donc un même hadith, il peut être compté comme 300 hadiths, s'il l'a entendu de 300 shirs. Ou s'il a entendu d'un shir, mais le shir lui-même, il a trois chaînes de transmission, c'est trois hadiths. C'est comme ça qu'il faut comprendre, quand vous entendez des nombres comme ça. C'est pas qu'il y a un million de hadiths différents. C'est pas ça. C'est qu'il y a un million de, on va dire, de voies ou de chaînes de transmission différentes. Mais les hadiths, dans le sens al-matn, c'est-à-dire le texte, ils ne sont pas à ce nombre-là, même loin de là. Donc l'imam Ahmed, il a choisi 40 000 hadiths, c'est-à-dire dans 750 000 chaînes de transmission. Après, il parle du nombre de sahaba. Il dit à peu près 700 hommes, 700 sahaba qui sont cités dans le Mousnad, et un peu plus de 100 femmes dont sont rapportés les hadiths. Après, quant à la daraja, c'est-à-dire le classement ou le degré d'authenticité du Mousnad, alors le Mousnad, il faut savoir que il comporte toutes les catégories de hadith. Mais les savants, ils sont juste en divergence quant à est-ce qu'il y a du mawdou'. Et les ulama, ils disent qu'en fait, il n'y a pas de mawdou'. Il n'y a pas de hadith qui a été rapporté par quelqu'un qui est accusé de mensonge. Soit qui est connu pour être mensonger dans sa vie de tous les jours, ou alors qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, par exemple, il dit qala shaykhul islam ibn taymiyyah wa qad tanaza'a an-nasu hal fi musnad al-imam ahmad hadithun mawdou'. Ibn Taymiyyah, il dit, les gens divergent, est-ce qu'il y a un hadith mawdou' dans le musnad de l'imam Ahmed. فقال طائفة من الحفاظ كأبي العلاء المهمداني وغيره ليس فيه موضوع وقال بعض العلماء كأبي الفرج بن الجوزي فيه موضوع. Donc certains ont dit il y en a, d'autres ils ont dit il n'y en a pas. وقال ولا خلاف بين القولين عند التحقيق فإن لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع الذي يعتمد صاحبه الكذب وهذا مما لا يعلم أن في المسند منه شيئا.
Il dit, en fait, il n'y a pas de contradiction entre ces paroles. Il dit, si on veut dire par le mawdou' ce qui a été inventé de façon volontaire par le rapporteur, il dit ça, il n'y en a pas dans le mousnad. Donc, c'est-à-dire, sur les 40 000 chaînes, il n'y a pas un hadith inventé. وَيُرَادُ بِالْمَوْضُوعِ مَا يُعْلَمُ انْتِفَاءُ خَبَرِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ لَمْ يَعْتَمِدِ الْكَذِبِ بَلْ أَخْطَأَ فِيهِ وَهَذَا الضَّرْبُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْهُ بَلْ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي. Et si on veut dire par al-mawdou', comme c'est possible, ce dont la faiblesse et le fait que c'est pas authentique est apparent, c'est-à-dire on se rend compte que le rapporteur s'est trompé, il n'a pas voulu mentir mais il s'est trompé, si c'est ça qu'on veut dire par al-mawdou', alors certes il y en a dans le mousnad de l'imam Ahmed et aussi dans les sunan d'Abi Daoud et d'An-Nasa'i. Après ici tu as un autre, il dit قال الحافظ في مقدمة تعجيل المنفعة ليس في مسند أحمد حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا والاعتذار عنه أنه مما أمر الإمام أحمد بالضرب عليه فترك سهوا. الحافظ بن حجر دي il n'y a pas de hadith qui n'ont pas de base dans le musnad de l'imam Ahmed sauf 3 ou 4. Il dit l'excuse qu'on trouve à l'imam Ahmed c'est qu'il aurait ordonné de les effacer et les gens, ses élèves, ils ont oublié de le faire. Et le mousnad, il est, donc il y a des paroles, le mousnad, il est en plusieurs catégories. Il y a le mousnad, ce qu'a rapporté Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, il le rapporte de son père directement et qu'il a entendu de lui. C'est ça qu'on appelle mousnad al-imam Ahmed et il équivaut aux 3/4 du livre. Après, ce que Abdullah a rapporté de son père et de autres que son père aussi. Et ça, il y en a très peu dans le mousnad. Après, ce que Abdullah rapporte de autres que son père. Et ça, on appelle ça Zawaid Abdullah. C'est-à-dire, c'est des hadiths rapportés par Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, et non plus l'imam Ahmed. Ou alors, les hadiths que Abdullah a lus devant son père et il les a approuvés. Et ils sont peu nombreux aussi. Et, ou alors les hadiths que Abdullah a trouvés, écrits de l'écriture de son père, et lui il les a pas entendus de lui, il les avait pas non plus lus devant lui, et ça ils sont très peu nombreux dans le mousnad. Donc là c'est un petit peu long, c'est pas tout qui nous intéresse ici. Il dit quelle importance ou quel travail ont fait les ulama par rapport à ce mousnad. Donc ce mousnad, en fait il y a différents travaux qui ont été faits dessus. Certains par exemple ils l'ont réorganisé par chapitre. Imaginez-vous le travail, c'est-à-dire les 40 000 hadiths qu'il y a dedans. Il faut capter par exemple le chapitre des ablutions, il faut voir tous les hadiths qui parlent des ablutions, du début jusqu'à la fin du Mousnad, et tu les mets dans un seul chapitre. Et tu fais pareil pour Salat, pour Zakat, etc. Ou alors aussi, un des travaux qui ont été faits sur le Mousnad, et sur autre que le Mousnad de l'imam Ahmed, c'est le travail qui a été fait dans ce qu'on appelle Az-Zawaid. C'est-à-dire un savant, il prend, et c'est pour ça que je vous disais, en fait rien n'est perdu de ce qui était dans les Massanides. Il prend les Mousnad, ou alors les Massanides plutôt, le pluriel c'est le Massanide, il en prend 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10. Donc imaginez-vous, le Mousnad, généralement c'est des livres qui sont très gros. Il prend ce livre, et il prend comme base les 6 livres de base, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Il en fait, ces 6 livres, il en fait une base. Après, il prend chaque Mousnad un par un, et tout ce qui est dans le Mousnad, qui n'est pas dans les 6 livres, il le met dans son livre à lui. On appelle le livre Zawaid. Donc à la fin, qu'est-ce que tu retrouves dans ce livre? Tout ce qu'il y a dans tous ces livres qui n'est pas dans Al-Kutub Sitta. Et ça, ça a été préservé. Et des fois, on a des hadiths qui sont dans ce genre de livres, qui étaient à la base dans un Mousnad qu'on a perdu. Donc finalement, c'est pas perdu, c'est dans le livre qu'on a maintenant. C'est comme ça que je vous disais que rien n'a été perdu. À chaque génération, c'est renouvelé et c'est retransmis et c'est réécrit. Donc ce qui est perdu, c'est infime. Donc en tout cas, ce que je veux dire, pour que vous reteniez, par exemple, Al-Haythami, il a fait Majma'u Zawa'id wa Manba'u Al-Fawa'id. C'est un livre où il a pris plusieurs Massanides, donc notamment le Mousnad de l'imam Ahmed, le Mousnad de Al-Tabarani, Al-Mu'jam, Al-Bazar, etc. Les principaux livres qu'on appelle Mousnad. Et tout ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas dans le Kutub Sitta, il le met en un seul livre. Donc ça veut dire, toi, au lieu d'avoir à lire tout ça, eh ben, tu lis juste son livre. Donc il n'y aura plus de répétition, ça sera plus petit. Et tu le mets à côté des 6 livres. Ça veut dire, si tu veux savoir, si tu as étudié par exemple les 6 livres, ou tu lis un chapitre dans les 6 livres, et tu veux savoir est-ce qu'il y a encore d'autres hadiths, tu reviens à celui-là. Donc ça te fait profiter du Mousnad de l'imam Ahmed, de l'Bazar, etc., etc., dans un seul livre. Sans que tu aies tout l'effort à faire. Et qu'est-ce qu'il rajoute dedans? Soit un hadith qui n'est pas dedans du tout, ou soit un hadith qui est déjà dans les 6 livres, mais dans les Mousnad, il est avec une autre chaîne de transmission. Il va le rajouter dedans, parce que ça peut nous aider à savoir est-ce que le hadith il est authentique ou pas. Parce que cette chaîne, elle peut renforcer une chaîne qui est dans les 6 livres. On va s'arrêter là. Normalement, après le livre, il parle des, après ça, il parlait des 6 livres. C'est-à-dire, il parle de Sahih al-Bukhari, de la même façon qu'on l'a fait. Qui est l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il y a dans le livre, etc. Et ben, peut-être que je ferai ça ailleurs et puis qu'on le mettra sur internet, Inch'Allah. Nas'alullah ta'ala, an yarzuqana al-ilma al-nafi' wal-amal al-salih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.